Et tout au long de leur vie, à force de goûter, ils vont pouvoir faire évoluer leur goût et ça va les amener à faire des adultes accomplis qui seront capables de mélanger tellement de saveurs et d'arômes dans leur bouche que bah, ils vont se régaler quand ils seront à table. C'est un petit peu le but ultime de tout ça, c'est de leur faire comprendre qu'on est capable aussi, en mélangeant du sucré, du salé, de l'acide, de l'amer et du umami, d'avoir une composition complètement exceptionnelle, alors que peut-être que chacun de ces goûts pris individuellement ne serait pas très agréable dans la bouche. Mais le mélange des saveurs, en fait, ben ça, c'est le travail d'un chef et c'est le travail de ces petits chefs pendant les ateliers.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Des goûts et des couleurs. Il faut de tout pour faire un monde, entend-on souvent. Oui, mais d'abord, d'où nous vient cette diversité des goûts? Comment expliquer que ce qui est agréable au toucher ou doux à l'oreille pour les uns peut être insoutenable pour d'autres? Devant l'assiette aussi, les dissensions sont grandes. Une saveur, un arrière-goût, une texture. Devant ce que certains trouvent agréable en bouche, d'autres peuvent ressentir un frisson de dégoût leur parcourir l'échine. Dans cette série qui met à l'honneur les papilles, revenons à l'essence de ce qui active nos glandes salivaires. À quel moment de notre existence nos goûts alimentaires prennent-ils forme? Sous quelles conditions ces goûts se construisent-ils? Entre le patrimoine familial, les habitudes de vie, les plats de l'enfance, par quoi sont-ils influencés? Jusqu'à quand est-il encore possible de modifier notre bibliothèque des saveurs? Comment expliquer que certaines populations affichent un goût invétéré pour l'anis et le pimenté quand d'autres ne semblent pas outillés pour apprivoiser ces saveurs? À travers reportages, analyses et témoignages, plongeons ensemble à la recherche de l'essence du goût et de ses secrets. Un substrat, autant qu'un médiateur, c'est le rôle du liquide amniotique, ce liquide dans lequel baigne le fœtus au commencement de la vie. Ce liquide possède des qualités gustatives et odoriférantes qui changent au cours de la grossesse en fonction de ce que mange la femme enceinte, comme le rappelle l'historienne de la médecine Danielle Gourevitch dans un article intitulé « La mère qui mange et le fœtus qui réagit », une allusion méconnue de la sensorialité fœtale. Et la philologue de poursuivre dans ce même texte « Sages-femmes et obstétriciens savent tous que le liquide amniotique au moment de la naissance a le goût de ce que la mère a mangé peu avant, ce que confirme l'expérimentation sur les femelles animales ». Parmi les ingrédients les plus marquants figurent l'ail, le cumin, le fenugrec ou le curry. Alors voilà où commenceraient nos premiers émois gustatifs, dès la vie in utero. Avant même le premier contact direct avec l'air extérieur, avant même la première respiration, il y a le premier contact avec les goûts et les saveurs. Quand on dit que la nourriture est la base de la vie, il n'y a donc rien d'exagéré dans cette affirmation, dans cette vérité générale, cette conviction que l'on a chevillée au corps chez Bouffon. Ce lien avec les goûts n'aura de cesse d'évoluer dans la vie. C'est comme ça que l'on se quittait lors du dernier épisode, en rappelant que notre destinée alimentaire n'est pas écrite d'avance, que nos goûts alimentaires ne sont pas ciselés dans le moule de ceux de notre mère lors de sa grossesse. Bien heureusement, tous autant que nous sommes, nous demeurons donc toutes et tous des individualités, libres de voir infléchir leur trajectoire de vie dans telle ou telle direction. Mais en matière d'ouverture d'esprit devant l'assiette, mieux vaut avoir été initié, entraîné, sensibilisé dès le plus jeune âge de la vie. Par exemple, durant l'enfance, alors que notre papillothèque est encore en train de se former. Cela, c'est une conviction de l'École Comestible, une association qui entend faire entrer l'éducation alimentaire dans les programmes scolaires. Une association née en 2019 à Paris, convaincue d'une chose, que l'on peut changer le monde par la manière dont on mange et que tout commence dès l'enfance, selon les principes de l'Edible Schoolyard, créé par Alice Waters en 1995 aux États-Unis. Souvenez-vous, je vous parlais de l'école comestible dans Bouffon à travers la passionnante interview de Camille Labro, la fondatrice de l'école comestible, dans l'épisode 127, sorti en mars 2021.
Il se passe des choses formidables dans ces ateliers parce qu'en fait, tous les enfants mangent les légumes contre toute attente. Les parents qui sont présents sont estomaqués en général, regardent leurs enfants avec des yeux ronds comme des billes en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai jamais vu ça à la maison » et surtout, ils adorent ça. Ils adorent ça, mais vraiment. J'ai eu très très peu d'enfants qui réagissaient négativement en crachant, en faisant berk. Il y a un petit garçon qui lève le bras et qui dit « Madame, 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 moi aussi je veux être maraîcher !» Et donc on se dit « Ouais, super, une vocation !»
Depuis, deux ou trois choses se sont passées. Après l'enregistrement de cet entretien avec Camille Labro, l'idée de donner de son temps auprès d'un jeune public a continué à me travailler. Dans nos métiers de journaliste traitant de sujets comme celui de l'alimentation, la question est un vrai serpent de mer. À qui s'adresse-t-on réellement lorsqu'on prône le bien manger ? À travers ce podcast via lequel j'ai la chance de m'adresser à vous chaque semaine ou encore à travers mes articles pour Libération, je m'efforce autant que possible de faire la place à des réflexions sociétales sur l'importance de prendre très au sérieux les questions liées aux faits alimentaires. Mais au fond, si vous avez cliqué sur cet épisode ou si vous avez ouvert le journal à cette page-là ce jour-là, c'est sûrement que vous êtes déjà sensible à cette manière de voir le monde. C'est sûrement que vous êtes quelque part déjà au moins un petit peu convaincu, finalement. Alors, qui sont ces autres personnes qu'il reste à convaincre, à sensibiliser, ces autres personnes qui sont encore partantes pour le faire ? Bingo, vous avez la bonne réponse, il s'agit des enfants. Alors avec quelques âmes motivées, convaincues par l'importance de cette grande mission qu'est le fait de s'en prendre à la fracture alimentaire dans les écoles et aux liens rompus entre la terre et l'assiette, nous avons monté une antenne régionale de l'école comestible imaginée par Camille Labro à Paris. Avec son regard expert et le précieux accompagnement de ses équipes de Paris, l'école comestible Provence est donc née il y a 2 ans, sous le soleil de Marseille et sous l'impulsion de Stéphanie Cross, Lison Postel et moi-même. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de notre antenne. D'abord via un micro embarqué lors d'un atelier école comestible organisé à la friche La Belle de Mai aux côtés de la chef Zoé Camille de Souza, que vous avez également déjà entendu dans Bouffon, dans l'épisode 139 sorti en juin 2021. Ainsi que notre équipe comestible provençale ce jour-là, Aurore, Célia, Nathalie, Julie, Virginie, Sophie et Charlotte. C'est parti. Je peux t'interviewer ? Alors, est-ce que tu manges souvent des épices ?
Oui.
Le sel à la main ?
Le sel, alors le sel, c'est pas exactement une épice. Est-ce que tu sais ce que c'est une épice ?
C'est ce qui épice le goût.
Je l'ai fait tomber.
C'est ce qui épice le plat.
Ouais.
Qui rajoute quelque chose.
Ça rajoute du goût.
Ça rajoute du goût.
Comme le cubor.
Ouais, mais alors le cubor, c'est un mélange de plein de choses et de choses chimiques. Et les épices, c'est vraiment, c'est plus naturel.
La cannelle.
La cannelle.
La cannelle.
En fait, tu sais, le cubor, c'est tout ça qu'on a sur la table. On fait un bouillon énorme et on le réduit jusqu'à il y a un concentrat. Du coup, oui, t'as raison, il y a des épices dedans, il y a des légumes, il y a du bouillon, il y a des œufs, il y a plein de choses qui donnent du goût. Et l'épice, c'est comme ça, mais en version nature. C'est comme un cubor fait par la nature, tu vois. Et là, t'as 3000 types de cubors différentes.
En fait, ce qui est mieux par rapport à un cubor où tu choisis pas le goût, puisque juste tu mets le cubor, c'est que quand tu fais les épices et que tu utilises les épices toi-même dans la cuisine, c'est toi qui doses un peu comme tu veux. Comme un sorcier ou une sorcière, tu choisis un peu les doses que t'aimes bien. Est-ce que tu sais, là, par exemple, dans les épices qu'on a senties, il y a quoi que t'aimes bien ?
Tu peux me montrer un truc que t'aimes bien ?
La cannelle. La cannelle.
La cannelle. Ouais, c'est bon, la cannelle.
Et la menthe.
Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que t'es en train de faire ?
Ouais, je suis en train de couper du chou.
Presque.
Du fenouil.
Ouais, bravo.
Et des oignons.
Et des oignons.
Ouais, voilà.
Ça va, t'es pas en train de pleurer ?
Non, ça fait pas du tout mal.
Tu connais la technique pour pas pleurer quand on coupe des oignons ?
Pas du tout.
Ben, en fait, on peut les passer sous l'eau froide.
Ah, je savais pas.
Ou alors quoi ?
Tu mets un masque de plongée.
Et il a raison, c'est possible.
Ouais.
Et du coup, ben, c'est trop bien de faire la cuisine.
Est-ce que tu fais la cuisine à la maison ?
Ben oui. Surtout pendant le ramadan. Pendant le mois du ramadan, j'ai fait que de cuisiner.
C'est vrai ?
Ouais, pour aider ma mère et tout.
Alors, qu'est-ce que t'as cuisiné, par exemple ?
Des desserts Et après, des plats chauds, en fait, comme... je sais pas comment ça... Enfin, des feuilletés et tout, des briques, de la salade aussi, j'en faisais beaucoup, parce que dans tous les repas, il y a des briques et de la salade.
Miam.
C'est obligé.
Ouais.
Des tiramisu.
Ah ouais.
Ouais, c'est le meilleur plat. J'utilisais 3 œufs, de la mascarpone et des biscuits.
Bien. Alors tu vas pouvoir nous montrer ça alors. Là,
tu prends un saladier et tu les mets dedans.
Vous venez d'entendre les bribes d'un atelier école comestible hors les murs, organisé à l'occasion du festival Terre commune à la Friche la Belle de Mai. C'était le mois dernier, en avril. Mais d'ordinaire, les ateliers écoles comestibles ont lieu dans les écoles primaires, sur le temps scolaire. L'idée est d'accompagner une classe sur une année entière afin de lui faire suivre un véritable programme comestible. Aussi important que les leçons de maths et de français, le temps de plusieurs ateliers. Mathieu Gamet est à Marseille, l'un de nos référents écoles comestibles, et je l'ai rejoint ce matin au café La Muse afin qu'il nous raconte son quotidien au plus près des enfants.
Je m'appelle Mathieu Gamet, j'ai 48 ans, je suis anciennement chef d'entreprise en reconversion et pendant le confinement j'ai passé un CAP de cuisine qui m'a amené sur une envie incroyable de développer des ateliers pour enfants, parce que je me suis toujours demandé pourquoi mes enfants n'avaient pas eu la chance d'apprendre ça à l'école. Et j'ai eu la chance de tomber sur l'école comestible, une association incroyable créée par Camille Labro, et à partir de là tout a démarré.
C'est toujours des moments assez excitants, les moments d'atelier. J'ai l'impression qu'il y a un peu comme au restaurant ou avant une pièce de théâtre, il y a le petit moment qui précède le coup de feu, le moment où d'un coup toute la pièce, et en l'occurrence la salle de classe, va s'animer parce qu'il va y avoir non pas tous les clients ou tous les spectateurs, mais tous les élèves qui arrivent. Il va falloir ensuite un peu canaliser tout ça et leur faire l'équivalent d'un cours. Mais alors c'est ça justement qui est bien avec l'école comestible, c'est que... On leur transmet des savoirs, mais on les incite en même temps à pratiquer. Et c'est ça peut-être qui rend la transmission de savoirs un peu différente du côté très vertical des autres types de cours.
Oui, complètement. Alors, on n'est pas là pour faire un cours magistral. L'idée, c'est vraiment, on prend une vingtaine de minutes pour leur parler du sujet qu'on a envie de développer. Ensuite, on a une heure ou une heure et demie pour faire de la pratique, c'est-à-dire qu'on les fait cuisiner. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la cuisine, on n'a jamais trouvé mieux en termes d'intelligence collective, parce que c'est à ce moment-là où tout se déclenche. Les enfants sont complètement excités à l'idée d'utiliser plein d'outils qu'ils ne connaissent pas, à toucher plein de choses, à sentir plein de choses, à goûter plein de choses. Et la force de ce type d'atelier, c'est qu'on arrive à faire avec ces groupes d'enfants qui très souvent n'ont aucune connaissance de ce qu'on leur amène, des choses qu'on n'arrive pas à faire chez nous avec nos propres enfants. Donc faire manger une salade crue de chou kale avec du brocoli et du fenouil, moi mes filles j'ai jamais réussi. Là ils le mangent, ils se régalent et tout le monde dit c'est trop bon. Donc ça c'est vraiment le côté excitant et pour arriver à le faire évidemment je peux pas être tout seul. On demande aux instituteurs de nous accompagner, d'être avec nous. Et on est toujours accompagné de pas mal de bénévoles qui entourent les tables avec nous et qui encadrent les enfants, parce que tenir 25 gamins de 7 ou de 6 à 10 ans, c'est pas toujours non plus évident.
Oui, c'est comme dans une cuisine, il faut à un moment s'organiser un peu en îlot, il faut que quelqu'un prenne un peu le lead et puis puisse transmettre aussi les manières de faire. Et surtout, c'est un public pas comme les autres, puisque là, on a face à nous des enfants qui... sont peut-être souvent habitués, quand on leur donne des choses manuelles à faire, à associer ce moment-là à un temps plus récréatif. Et là, certes, on s'amuse, mais il y a quand même cette idée d'aller ensemble vers un objectif qui est le fait de faire une salade. Est-ce que c'est ça justement qui fait qu'ils sont capables de manger du chou kale, du brocoli? C'est le fait de l'avoir fait ensemble?
C'est complètement ça, le fait d'être ensemble, le fait de faire eux-mêmes surtout.
Est-ce que tu peux nous raconter, pour qu'on rentre un peu dans l'ambiance de ces ateliers, de quoi ont été constituées les dernières salades que tu as pu faire avec les enfants, avec les légumes du moment?
Un des derniers ateliers qu'on a pu faire avec un maraîcher du coin, c'était sympa parce qu'avec le printemps, on commence à avoir des fruits et des légumes qui sont quand même plus attrayants globalement pour tout le monde. Donc on a eu les premières tomates, on a eu les premières fèves, on avait des petits pois, on a eu de très très belles salades. Il y avait encore des betteraves. Ça a permis de faire des petites salades assez simples qui ressemblent à nos salades printanières d'été et que les gamins ont adoré. Et on a aussi cette possibilité de leur faire de leur faire goûter au travers d'un atelier qui sont les goûts primaires, énormément de choses différentes, et de leur expliquer à quel point leur goût peut évoluer entre que leur papillothèque, j'aime bien ce mot, que leur papillothèque peut évoluer au fur et à mesure de leur vie, et ils s'aperçoivent et ils se rendent compte que des choses qu'ils ont aimées quand ils étaient plus jeunes, ils les aiment aujourd'hui, ou vice-versa. Et tout au long de leur vie, à force de goûter, ils vont pouvoir faire évoluer leur goût, et ça va les amener à faire des adultes accomplis qui seront capables de mélanger tellement de saveurs et d'arômes dans leur bouche que bah, ils vont se régaler quand ils seront à table. Et c'est un petit peu le but ultime de tout ça, c'est de leur faire comprendre qu'on est capable aussi, en mélangeant du sucré, du salé, de l'acide, de l'amer et du umami, d'avoir une composition complètement exceptionnelle, alors que peut-être que chacun de ces goûts pris individuellement ne serait pas très agréable dans la bouche. Mais le mélange des saveurs, en fait, ben ça, c'est le travail d'un chef, et c'est le travail de ces petits chefs pendant les ateliers.
Mais oui, mais c'est génial là, ce que tu racontes. Ça me fait penser à un moment, une petite dans un atelier qui disait « Ah, le chou rave tout seul, j'aime bien parce que c'est croquant, mais j'aime pas trop le goût. » Et ensuite, dans la salade, cette salade d'ailleurs qui est devenue hyper rosée au contact de la betterave qu'on avait ciselée, et ben en fait, tout ça mis ensemble avec des petits morceaux de pommes en plus, elle trouvait ça trop bon. Et elle l'a répété plusieurs fois en dégustant, en disant « Mais ah là, j'adore le chou rave. Le chou rave est devenu un peu violet. C'est trop bon, c'est un peu sucré. »
Oui, bah c'est exactement ça. Toujours dans ce même atelier des goûts primaires, l'intérêt pour nous, c'est de faire découvrir aux enfants donc les 5 goûts primaires, les goûts secondaires et puis même des sensations trigéminales. Et une fois que tous les enfants ont goûté, on va dire, une quinzaine de choses différentes, on les invite à créer une sauce, à mélanger pas mal de ces ingrédients qu'on leur a fait goûter. Il peut y avoir des huiles, des vinaigres, du citron, bien évidemment, du sucre, il y a beaucoup de choses. Et une fois qu'ils ont créé cette petite sauce, on leur présente un certain nombre de légumes qui ont chacun leurs caractéristiques, donc des carottes qui sont plutôt sucrées, des tomates qui peuvent être sucrées, ou des endives qui vont être très, très amères, et on va leur proposer de tremper ce légume dans cette sauce qu'ils auront créée et d'essayer de voir la différence que ça fait dans leur bouche. Et c'est sûr qu'une endive trempée dans une sauce sucrée, bah ça sera plutôt pas mal, alors qu'une tomate qui est déjà assez sucrée dans une sauce sucrée, on va arriver en saturation de sucre, et donc ça sera peut-être moins agréable pour l'enfant. Et voilà, on essaie de les amener vers ça et de leur faire découvrir qu'ils ont un vrai pouvoir en cuisine. Ce mélange, ils peuvent le faire eux-mêmes, et on espère qu'ils le répéteront une fois qu'on sera parti de la classe.
Oui, c'est ça. En fait, finalement, on aiguise et leur curiosité et aussi leur sens de la créativité. D'ailleurs, dans la boîte à outils de l'école comestible, il y a toujours donc tous ces condiments avec lesquels on arrive en classe, donc de l'huile d'olive, de la sauce soja, de l'huile de sésame. Tu vois peut-être d'autres choses ?
Alors, on arrive à leur faire goûter des trucs incroyables. On peut leur faire goûter du miso. Assez étonnamment, ici dans le sud, beaucoup d'enfants n'ont jamais mangé d'olive noire. Donc on leur fait goûter des olives noires qui très souvent ils n'aiment pas au premier abord, mais ensuite on leur fait goûter une petite tapenade et là c'est différent et ils arrivent à le manger. Donc ouais, non, l'idée c'est vraiment de les amener sur plein de goûts, de choses différentes, des petits anchois. On essaie de trouver l'umami avec des tomates séchées par exemple, ou encore avec du parmesan ou des champignons pour essayer de... Cette notion d'umami elle est compliquée même pour un adulte, alors pour un enfant c'est sûr que c'est pas évident, mais... C'est ce goût délicieux, comme disent les Japonais.
Oui, le petit goût de reviens-y. Alors, ce qui est cool aussi avec ces ateliers, c'est qu'ils s'intercalent sur le temps scolaire, donc potentiellement entre un cours de français puis un cours de maths. Comme on reste dans l'enceinte de la classe, on a toute l'attention des élèves, a priori, puisqu'ils se disent « bah voilà, je suis à l'école, je suis là du coup pour écouter, je suis sur le temps scolaire ». Qu'est-ce que tu arrives à leur transmettre comme notion, au-delà de ces conseils plutôt pratiques, en termes peut-être de saisonnalité, de locavorisme, est-ce que c'est aussi des idées qu'on essaye de leur expliquer ?
Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au primaire, les instituteurs ne sont pas obligés de suivre un programme à la lettre comme ça peut l'être au collège. Donc, c'est assez facile pour nous de venir leur prendre 2 heures de leur temps une fois tous les 15 jours, tout simplement parce que quand on parle de cuisine, on fait des maths, parce qu'on fait des pesées, On fait du français parce qu'on leur apprend plein de mots de vocabulaire. Le premier mot qu'on leur apprend, ça peut paraître étonnant, mais c'est le mot de maraîcher. Voilà. La plupart des enfants, 99% des gamins ne savent pas ce que c'est un maraîcher. On va leur apprendre de la géographie, puisque bien évidemment, on va leur montrer différents endroits où les légumes et les fruits peuvent pousser. Donc en fait, ça peut s'intercaler au milieu de beaucoup de choses. Et c'est hyper intéressant pour eux. Je pense que c'est très intéressant pour les professeurs aussi, parce que ça peut être assez ludique de justement apprendre une matière à travers un autre élément, qui est celui de la cuisine, et qui est un élément dont ils vont avoir besoin ensuite, de toute façon, toute leur vie, puisqu'il faut bien qu'on mange tous les jours.
Oui, c'est ça. En fait, techniquement, il n'y a pas de cours. C'est plutôt des leçons. C'est comme ça qu'on raisonne quand on est à l'école élémentaire. Et donc, l'atelier de l'école comestible, lui, permet de toucher à plusieurs types de leçons possibles, qui sont aussi d'ailleurs des objectifs aujourd'hui édictés par l'éducation nationale. L'éducation nationale dit, dans les programmes scolaires, il faudrait pouvoir parler de saisonnalité, de différents types d'agriculture. Et ça, finalement, l'école comestible, en proposant ces ateliers, permet aux instituteurs et institutrices de cocher ces cases.
Oui, alors il y a vraiment cette notion de saisonnalité, elle est quand même très importante, parce que c'est vrai que pour la plupart d'entre eux, ils n'ont vraiment aucune idée du fait que des fruits et des légumes puissent pousser à des saisons différentes. Mais de la même façon qu'il y a une saisonnalité pour les viandes et les fromages aussi, hein, si on s'attache à ce sujet. Donc ça, on essaie de leur amener les différents types d'agriculture, différents types d'industrie. On essaie de les sensibiliser à ça. Il y a un atelier qui s'appelle Malbouffe ou Junk Food qui est très intéressant, parce qu'on leur apprend à lire, par exemple, ce qui est écrit sur des packaging, puisque toutes ces informations sont quand même là pour que le consommateur puisse comprendre un peu mieux ce qu'il mange. Donc c'est une première voie vers une meilleure compréhension, une fois de plus, de ce qu'ils mangent, pourquoi ils mangent, comment ils mangent, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur leur corps. Donc il n'y a pas en tout cas dans ma démarche, mais dans la démarche de l'école comestible, il n'y a rien de prosélytique là-dedans. On n'est pas là pour leur interdire de manger certaines choses. Mais simplement, on veut qu'ils puissent comprendre, une fois de plus, pour mieux choisir. Et si on avait une transmission à faire aujourd'hui, c'est ça. C'est, à mon âge aujourd'hui, je pense avoir compris un certain nombre de choses. Cette association, je pense, a compris beaucoup de choses. Et on a fait un programme, parce que tu parlais de l'éducation nationale, mais il y a un vadémécum de l'éducation nationale qui est énorme, qui met toutes ces problématiques en avant, mais qui ne donne aucune méthodologie. L'école comestible donne la méthodologie. Et ça, c'est vraiment pour ça que je me suis accroché à cette association. Et je me sers de ça aujourd'hui pour transmettre quelque chose que je n'aurais pas pu, moi, mettre en mots, mais qui semble tellement fondamental aujourd'hui que... qu'il faudrait... Venez tous, faites-le.
Oui, c'est ça. L'éducation nationale liste des objectifs sans forcément préciser les moyens de les atteindre, ces objectifs. Et finalement, les instituteurs, institutrices peuvent se sentir un petit peu seuls une fois qu'ils ont lu cette liste d'objectifs. Bon, comment l'intégrer dès la rentrée prochaine au programme? Ça, c'est une autre paire de manches. Je voudrais rebondir sur ce que tu as commencé à dire, qui me semble super intéressant à propos de être prosélyte ou pas. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on dit aussi à propos des changements d'habitude de manière générale, et y compris à destination des adultes. On dit qu'être donneur de leçons, a priori, ne sert pas à grand-chose. Parce que c'est pas parce que quand on se fait taper sur les doigts qu'a priori, on va se dire tout à coup, tiens, je vais essayer d'impulser du changement dans ma vie quotidienne. En général, ça marche mieux quand ça passe par des choses inspirantes et joyeuses. Et c'est ce qui se passe donc dans ces ateliers écoles comestibles, puisque, par exemple, il y a un atelier sur le datella. Je voudrais que tu nous en parles un peu plus, parce que je crois que c'est un atelier qui a beaucoup de succès auprès des petits.
Oui, c'est un atelier qui a beaucoup de succès, parce que je pense qu'il n'est pas plus emblématique comme produit de junk food que le Nutella. Et on a décomposé un pot de Nutella pour les enfants, vraiment strate par strate, pour leur montrer de quoi était composé ce pot de Nutella. Donc composé à 60% de sucre, je crois 15% d'huile de palme et un peu de cacao et de purée de noisettes. Le datella, c'est une pâte à tartiner. Alors je ne sais pas qui a créé la recette. Il y a trois ingrédients. Il y a des dattes trempées, 12 heures dans de l'eau. Il y a une cuillère à café de cacao, 100%, et une cuillère à soupe de purée de noisettes. On mixe tout ça, et c'est tout. La date, c'est un des fruits les plus sucrés du monde. Et les enfants qui, sur le moment, disent « Ah, j'aime pas les dates », ou qui, limite, ont même pas envie de goûter, se tartinent un petit peu de datella, on l'appelait le datella, sur du pain. Et ça n'est jamais arrivé que les enfants repartent avec à la maison, puisqu'ils terminent tout pendant l'atelier. Et c'est une recette qui prend, je ne sais pas, 5 minutes à faire. C'est rien. Donc pour un goûter, quand on les voit arriver avec leur paquet de chips au goûter et autres Capri Sun, bon, on se dit que quand même, il y a des choses qui sont très faciles à faire et ils s'éclatent. Et une fois qu'ils ont appris à le faire, ça, je sais qu'ils le refont à la maison, par contre. C'est plutôt pas mal. De la même façon que le Nutella a été décomposé, on a décomposé un brownie au chocolat. Et alors un truc qui leur parle vraiment beaucoup, c'est un nuggets de poulet. Et nuggets de poulet fait maison, il faut 4 ingrédients, je crois, ou 5 peut-être, si on rajoute du sel. Si on va acheter des boîtes de nuggets chez Biocoop, je crois qu'on est déjà sur 13 ingrédients. Et si on prend les mêmes nuggets chez Carrefour, il y a 23 ou 25 ingrédients. Et donc là, il y a même pour les enfants, il y a quelque chose qui leur saute aux yeux et qui dit mais c'est quoi tous ces ingrédients? Et on s'amuse à lire la liste. Et sur les 23 ingrédients, ils en connaissent 4. En fait, tout le reste, c'est que des trucs, des additifs et autres. Et autres cosmétiques, en fait, c'est ce que j'essaie de leur expliquer. On maquille les aliments pour qu'ils paraissent vachement plus beaux et pour que vous ayez envie d'en remanger. Mais par contre, tout ce que vous mangez, en fait, vous ne savez pas trop ce que c'est. Et même moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, d'après vous, quand on voit une longue liste d'ingrédients sur un paquet, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et ils sortent de l'atelier en disant c'est une mauvaise nouvelle. Bon, voilà. Une fois qu'ils ont dit ça, je me dis que j'ai peut-être apporté quelque chose.
Oui, c'est ça, que tu as peut-être apporté quelque chose, et c'est quelque chose qu'on se dit aussi quand on commence ces ateliers. À l'arrivée, on ne sait jamais la totalité des choses qu'on arrive à transmettre. Par contre, si on se dit qu'on arrive à en transmettre au moins une poignée, c'est quelque chose. Et parmi cette poignée de choses, il y a le plaisir de cuisiner tous ensemble, le fait de parler des légumes de saison, de manipuler des choses ensemble et de les goûter après, et puis aussi tout simplement de réaliser que les ingrédients ont un goût isolément, puisque la plupart des enfants mangent des choses qu'on leur prépare une fois que tout est assemblé dans l'assiette. Et ça peut éveiller aussi leur curiosité de goûter aussi aux aliments séparément. Est-ce que toi, tu as déjà eu des petits moments comme ça de joie un peu personnelle à travers des phrases entendues dans ces ateliers? Peut-être de la part d'enfants qui étaient moyen motivés au début et qui, en fait, se sont avérés super heureux de l'heure et demie qu'ils venaient de passer avec cet atelier.
Ah, je crois que des moments de joie, j'en ai absolument à chaque fois, parce que ce qu'il y a de génial avec les enfants, c'est qu'ils sont d'une spontanéité incroyable, ils ont des réflexions. On s'était dit même on n'a pas le temps, mais on s'était dit qu'à chaque fois qu'on entendait une phrase un peu rigolote, on la noterait pour pouvoir la répéter tellement c'est dément, quoi. Et ces moments de joie, ils sont ne serait-ce que dans les voir se disputer un petit bout de pomme en disant non, c'est mon bout de pomme, non, c'est le mien, ou c'est ma feuille de chou kale. Moi, je suis mort de rire. Je me dis, mais ils se disputent pour une feuille de chou kale, hein. C'est quand même, si on m'avait dit ça un jour. Non, c'est pouvoir terminer un atelier avec deux, trois mots-clés et s'apercevoir en fait qu'ils les ont en tête. Voilà, la cagette de saison, on va parler de saisonnalité, de local. À partir du moment où ils ont compris ça, c'est quand même, on se dit que c'est déjà le début. C'est pas gagné, mais c'est le début. Et si on pouvait répéter ça année après année, puisque tous ces ateliers se font par niveau, hein, un atelier qu'on a fait pour une grande section, on peut revoir la même classe l'année d'après en CP, puisque les programmes sont évolutifs. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que ça permettrait d'arriver en sixième avec des enfants qui ont une vraie compréhension de ce qu'ils mangent, quoi. Et donc, à partir de là, je me répète, hein, mais ils pourront choisir. Ils auront le choix d'aller bouffer McDo et d'aller se prendre du Nutella toute la journée. Mais par contre, au fond de leur tête, ils auront compris ce qu'ils mangent quand même. Donc du coup, ce sera un choix un peu plus avisé.
Et dernière question que j'avais à te poser, Mathieu, comment dans tout ça, puisque là on s'adresse quand même à un public assez jeune, donc on plante une graine quelque part, et cette graine, comme tu dis, on ne sait pas exactement comment elle pousse, mais au moins on sait qu'elle pousse de manière consciente, puisqu'ensuite les petits feront plus tard les choix qu'ils feront, mais a priori en ayant quand même ça, ça quelque part au fond de leur tête, que les aliments ne sont pas hors sol et qu'il y a des choses très transformées quand d'autres sont au contraire cultivées avec soin plus proche de nous. Mais comment là, tout de suite en tout cas, au-delà d'ouvrir cet imaginaire, comment on peut imaginer que ce savoir puisse être transmis, alors peut-être par exemple à la maison, avec les parents?
La question, elle est pas évidente pour y répondre, parce que le travail qui va être fait en classe, pour le faire remonter à la maison, la meilleure solution, ça serait de pouvoir aussi faire participer les parents aux ateliers. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que la plupart des gens travaillent, donc certains d'entre eux peuvent participer. Je pense qu'il faut vraiment que les instituteurs soient capables d'accompagner ce programme une fois qu'on n'est plus là aussi, c'est-à-dire qu'il y a un suivi, de manière à ce que les enfants aient envie de répéter ça chez eux. Et pendant les vacances, de se dire que des gamins vont peut-être plutôt passer une heure à prendre de la farine, un peu d'eau, un peu de semoule, faire une pâte pour se faire des pâtes fraîches, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de plus. C'est quand même plus sympa que de se dire qu'ils ont passé 3 heures à scroller un écran pour regarder des bêtises. Voilà, donc comment transmettre ça aux parents? Si déjà on arrive à le transmettre aux enfants, ils seront demain en principe, ça deviendra de bons parents. Voilà, on va dire ça.
Tout à fait. Puis là, c'est vrai que je te pose une question qui fait d'ailleurs partie des grandes problématiques aujourd'hui de notre association, c'est de réfléchir à prolonger cet enseignement qui se fait en classe et d'imaginer comment il peut ensuite naviguer hors les murs. Mais déjà, effectivement, à travers ces recettes simples que les enfants peuvent ramener chez eux, je pense notamment à celle des gnocchis, puisque j'ai déjà participé à ces ateliers où des enfants sont émerveillés et se disent « Ah bon, mais on peut faire ça soi-même »
Oui, c'est tellement simple de faire des gnocchis ou de faire des pâtes fraîches. Et de demander à un enfant, est-ce que tu as déjà fait des pâtes? Oui. Donc ça veut, je lui dis, mais ça veut dire quoi? Que ben j'ai déjà ouvert la boîte et je les ai mis dans l'eau. Non. Est-ce que tu as déjà fait des pâtes? Mais on ne peut pas faire des pâtes. Mais si, on va faire des pâtes. Et à ce moment-là, voilà, on fait des pâtes fraîches. Ça prend une vingtaine de minutes. On les fait cuire en classe. On prépare la farce. On leur apprend à faire des petits raviolis ou des petits capelletti. Et ils n'en reviennent pas. Et ils mangent des pâtes avec un pesto fait avec les herbes de saison, mélangé avec un peu d'ail, un peu d'huile d'olive, un peu de parmesan. C'est juste dément de voir des gamins se manger ça en classe, alors qu'une fois de plus, je pense que si on avait fait ça à la maison, si on avait acheté des pâtes, si on avait acheté un mauvais pesto, je pense qu'ils n'auraient même pas eu envie de manger le pesto, c'est vert. À partir du moment où c'est vert, un enfant, il a toujours l'impression qu'il y a un petit rejet. Donc, c'est magique. Il y a vraiment un côté très excitant, magique, dans cette transmission. Et c'est le bon âge surtout, c'est-à-dire que pouvoir proposer ça à des enfants de cet âge-là, on a encore leur attention. Un ado, il est en contradiction avec tout ce qu'on va lui apporter, que ce soit ses parents ou l'école. Il va être attiré par la junk food, c'est normal, on est tous passés par là. Mais ces enfants-là, à cet âge-là, voilà, c'est le bon moment. Donc je pense que ce projet d'école comestible est un projet à suivre et à porter le plus loin possible.
Moi, j'aurais adoré, plus jeune, pouvoir assister, enfin vivre des ateliers de cette sorte. Et là, en t'entendant parler, je réalise que c'est peut-être un peu ça aussi, la vie adulte et s'investir dans une association. Ça peut être aussi, finalement, donner de son temps dans quelque chose qu'on aurait aimé nous-mêmes avoir.
Oui, complètement. C'est de toute façon, il me semble, moi ça m'a toujours motivé et habité, cette volonté de transmettre. J'ai déjà travaillé dans d'autres associations, j'ai toujours été dans cette transmission de savoir et j'ai toujours envie de pouvoir transmettre et donner plus et éduquer, parce qu'il me semble que l'éducation, c'est quand même à la base de tout. Les vies sont compliquées aujourd'hui, tout va très vite. Beaucoup de familles n'ont pas trop de temps. Et c'est aussi ce rôle-là qu'on peut prendre à l'école, de venir apporter des connaissances et un savoir qui sera partagé ensuite et qui permettra peut-être de mieux vivre ensemble. Et quand on dit qu'à l'école comestible, on peut changer le monde en changeant son alimentation, globalement, on en est tous convaincus, en tout cas au sein de cette association. Et c'est vraiment quelque chose auquel je crois, parce qu'il n'y a rien de plus convivial dans la vie que de se retrouver autour d'une table. et de manger. Et donc, si en plus on mange bien et qu'on comprend ce qu'on mange, c'est gagné pour le reste, quoi.
Alors voilà, des enfants qui se disputent un bout de chou rave, d'autres qui se resservent allègrement d'une salade aux betteraves. Que de victoires au tableau de l'école comestible. Mais si notre bibliothèque personnelle des saveurs se construit largement dans l'enfance, est-il possible ensuite de voir nos goûts évoluer ? Est-ce possible de se mettre à aimer quelque chose sur le tard ? Dans le prochain épisode, je vous propose de découvrir quelques anecdotes de revirement de goût culinaire qui nous serviront de base pour comprendre comment un tel phénomène peut s'expliquer scientifiquement. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Neila Acmi. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.